Alors l'horloge ou le clocher sonne 20h05 et donc très ponctuellement nous vous proposons de commencer. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir dans cette chapelle qui est chauffée pour la première fois de l'année à l'occasion de cette rencontre. Le père Christophe s'est battu avec la chaudière cet après-midi pour qu'elle fonctionne, donc on le remercie beaucoup. Et il a gagné. Alors on vous propose une soirée en un peu moins de 2 heures, donc jusqu'à 21h50, quelque chose comme ça, pour essayer de vous présenter une encyclique qui se lit en plus de temps que ça. Donc autant vous dire que nous allons malheureusement devoir résumer un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner peut-être aussi envie d'aller voir par vous-même ce que le pape François nous a adressé, puisque c'est bien à chacun d'entre nous qu'elle s'adresse. Il s'agit d'une encyclique, c'est-à-dire d'une lettre que le pape écrit, et il l'écrit bien à chacun d'entre nous. Alors, la soirée va se dérouler suivant un plan assez simple. On va suivre les chapitres de l'encyclique, comme ça vous ne serez pas perdus. Et après une introduction que je suis en train de commencer, eh bien, nous allons nous répartir, et vous allez aussi vous répartir, c'est-à-dire que il va y avoir des temps de présentation d'un chapitre, mais on va aussi vous proposer de temps en temps de réfléchir et de faire sortir de vous-même quelques réponses à quelques questions. L'encyclique que le pape a écrite nous propose d'aller au cœur de la foi. Et le thème du cœur revient pendant toute l'encyclique, c'est d'ailleurs son thème principal. C'est un excellent traité de spiritualité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire un traité de spiritualité, mais vous ne perdrez pas votre temps à aller écouter ce que le pape dit, parce que ce n'est pas évident. J'en ai lu quelques-unes des encycliques. Ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre des considérations sociologiques, des considérations théologiques, des considérations spirituelles. Parfois, on ne s'y retrouve pas, ou alors il y a des chapitres entiers, on a envie de lire très 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 vite et que ça se termine. Ici, c'est un petit peu différent, et c'est pour ça qu'on a voulu, le père Christophe et moi-même, vous la présenter ce soir, parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette encyclique, je ne dirais pas que c'est le testament spirituel du pape François, parce qu'on ne va quand même pas considérer que c'est sa dernière encyclique, même si il est peu probable qu'il en écrive encore beaucoup. Depuis le début de son pontificat, il en a écrit 4. Voilà. Et il dit, le cœur et le chemin que Dieu a voulu prendre pour nous faire comprendre de quel amour on est aimé. Il veut nous expliquer que cet amour est sensible. Et donc cette encyclique, elle a ça de beau, c'est qu'elle n'est pas particulièrement abstraite. Elle est même assez concrète, elle est presque charnelle. Elle nous parle de l'amour humain de Jésus. Alors c'est ce qu'on va essayer de vous présenter, et je voudrais simplement vous faire glisser dans la présentation avec une image que le pape François raconte, qui est une. Voilà, c'est du pape François dans le texte, on reconnaît, c'est forcément de lui. Il raconte l'histoire de quand il était petit, avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui faisait. Alors, le texte a traduit des gâteaux. Tout le monde sait qu'en fait, il s'agit de beignets. C'est des gâteaux, dit-il, qui sont de la pâte, qu'on met dans l'huile, et ça frit, et en devenant frit, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Bon, on appelle ça en français des beignets. Ça a été traduit gâteau. Et il raconte ça en disant, mais nous, on appelait ça, enfin, ma grand-mère appelait ça des mensonges. Et elle dit, nous, on aimait bien les mensonges, enfin, ceux-là, en l'occurrence, parce qu'ils semblent grands, mais il n'y a rien dedans. Il manque le cœur. C'est creux, c'est vide. Et il nous encourage, il écrit en disant, moi, je voudrais que dans l'Église, ceux qui lisent cette encyclique, justement, ne soient pas comme ces beignets qui sont des mensonges, ne soient pas des choses tout gonflées de leur importance et de leur connaissance, avec à l'intérieur, rien du tout. Il voudrait que nous ayons quelque chose. Et il cite Saint Bonaventure, qui dit, en fin de compte, ce qu'on doit demander, c'est pas la lumière, c'est le feu. Et toute cette encyclique, elle a ça d'extraordinaire qu'elle essaye de donner le feu. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un testament, pas dans le sens où il va bientôt mourir, mais dans le sens où il donne quand même quelque chose d'extrêmement important pour lui, qui pour lui peut renouveler l'Église. Parce que l'Église ne se renouvellera que de l'intérieur, que du feu qui brûle en elle. S'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas de feu à l'intérieur du cœur, eh bien on ira nulle part. Le monde ne peut changer qu'à partir du cœur. Si vous vous souvenez des encycliques que le pape a écrites, déjà, il y avait la toute première qu'il n'a pas vraiment écrite. Parce qu'en fait, elle a été signée le 18 mars 2013. Je vous rappelle que le pape François a été élu le 13 mars 2013. Alors, il est compétent et brillant, mais il n'a pas écrit une encyclique en 5 jours. En fait, cette encyclique, la première, qui parlait de la foi, ben c'est Benoît XVI qui l'a écrite. Lui, il l'a publiée, en la reprenant à son compte, mais il l'a publiée. Et c'était la suite des encycliques précédentes où le pape Benoît XVI avait parlé de l'espérance, de la charité, et puis il faisait la dernière sur la foi, terminer la trilogie. Ça, c'était la première encyclique. La deuxième encyclique, elle est bien connue, elle a fait parler beaucoup, c'est celle qui parle de l'écologie, et en particulier de l'écologie intégrale. Laudato si, 2015. Ça parle des questions de la sauvegarde de la création, de l'écologie intégrale, du développement durable, etc. La troisième, vous en avez probablement entendu parler aussi, c'était Fratelli Tutti, sorti en 2020, tous frères. Et puis, et bien récemment, celle que nous présentons ce soir, Dilexit Nos. Alors, Fratelli Tutti, c'est facile, on comprend. Laudato si, bon, on connaît peut-être le chant de saint François d'Assise. Laudato si, o mi signore. On l'avait déjà en tête. Bon, l'autre, Lumen Fidei, facile. Mais Dilexit Nos, je pense que ça ne dit rien à personne. On n'arrive pas très bien à traduire. Je ne sais pas si vous voyez le titre en français. La plupart du temps, il n'a même pas été traduit en français. Il se trouve que les encycliques prennent le nom des premiers mots. Mais après, les papes sont quand même malins et ils choisissent les premiers mots en fonction du nom qu'ils ont envie de donner. Et donc, évidemment, ici, ce sont les deux premiers mots. Alors, la plupart du temps, quand on prend les deux premiers mots, on les met dans la langue du pays visé. Par exemple, « Non abbiamo bisogno », écrit en 1931 en italien, était destiné aux fascistes. C'était très précis, on a mis le titre en italien. « Mit Brennender Sorge », écrit en 1937, elle ciblait aussi un petit peu son public. Vous voyez, Pie XI, condamne le nazisme. Ici, il l'a mis en latin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vise personne, ou alors plutôt, ça veut dire qu'il vise tout le monde. Parce que le latin est encore considéré comme la langue de l'Église universelle. Donc il ne vise pas un groupe en particulier. S'il l'a mis en latin, ça ne nous arrange pas parce qu'on ne comprend pas. Mais en réalité, c'est parce que ça s'adresse à tout le monde. Alors, je vais terminer cette introduction en allant chercher tout simplement dans le Gaffio. Ce que vous avez peut-être connu, ça vous a peut-être traumatisé le Gaffio. C'est ce dictionnaire de latin que nous avions l'habitude d'ouvrir et on se cassait un peu la tête avec les verbes parce qu'il fallait chercher les bonnes racines. Alors, je vous aide. Dilexit, ça vient de diligo, lexi, lectum, qui signifie, et là, c'est là que c'est intéressant, prendre de côté, choisir, distinguer. Et le Gaffio, c'est le Gaffio qui précise, aimer d'une affection fondée sur le choix et la réflexion. C'est-à-dire, dilexit, ça veut dire aimer, mais ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour qui choisit. C'est un amour qui s'arrête sur quelqu'un qui connaît, fondé sur le choix et la réflexion. C'est un amour de préférence. On aurait pu traduire « dilexit nos », il nous a préférés, ou il nous a aimés, nous, parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous a choisis. Vous voyez, ça a donné en français le mot « prédilection ». Dilexit, prédilexit, prédilection. Et la prédilection, c'est une préférence marquée, nous dit le dictionnaire. Eh bien, « dilexit nos », cette encyclique-là, nous explique en quoi est-ce que le Seigneur nous a aimés, nous a choisis d'une manière particulière.
Alors, je continue avec le premier chapitre qui s'appelle « L'importance du cœur ». Le pape commence son encyclique en développant cette notion de cœur, pas forcément en référence à Jésus particulièrement, mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle du cœur humain ? Le cœur, vous êtes bien d'accord que c'est d'abord un organe physique. Cet organe, on pour représenter avec un joli cœur-cœur, symbole de l'amour, symbole universel, archi-universel. En ce moment, on met des cœurs partout sur nos téléphones portables. Hein. Dès que vous voulez dire à quelqu'un que vous êtes plus ou moins content de ce qu'il vous propose, vous mettez un cœur. Donc, le symbole du cœur, vous avez vraiment le cœur physique, et puis le symbole du cœur qui signifie pour nous le plaisir, qui signifie l'amour, qui signifie qu'on approuve, qu'on aime bien. Chez nous, le cœur a une notion très sentimentale. Et beaucoup, si on vous met plein de cœurs partout, vous allez peut-être trouver ça un peu dégoulinant. Le pape revient à l'utilisation plus habituelle du mot cœur dans la philosophie, dans la littérature grecque d'abord. Ça va être chez Platon, chez Aristote et ainsi de suite. Le cœur, va-t-il nous dire, va être un lieu de synthèse. Synthèse en particulier de la pensée et des émotions. Nous, on en a fait simplement le lieu de l'émotion. Dans la philosophie grecque, il est un lieu de synthèse de l'intelligence et des passions. Donc, le cœur, si vous voulez, pour le pape, il le trouve intéressant parce que cette notion-là est plus large que simplement la notion de raison ou d'intelligence. Et au fond, le pape critique implicitement ces visions de l'homme qui seraient pures. Vous avez un peu deux visions qui sont critiquées là. Les visions purement rationalistes, où on serait simplement des animaux pensants et où, au fond, tous nos choix seraient rationnels et uniquement basés sur des calculs, sur des algorithmes. Pour le pape, c'est évident que nous ne sommes pas un supercalculateur d'algorithmes. On ne passe pas notre vie à poser des choix raisonnables. Évidemment, on utilise notre raison, mais on va la croiser avec nos sentiments. Le fait de tenir les deux ensemble est important parce que, à l'inverse de ceux qui voudraient n'utiliser que la raison, d'autres voudraient n'utiliser que le cœur. Et je pense que c'est assez fort aujourd'hui. Vous avez toute une manière de présenter les choses dans la société moderne. N'hésitez pas à vous avancer, il reste de la place devant. Il y a toute une manière de présenter les choses dans la société moderne où, au fond, ce que je ressens, c'est primordial. Si j'ai ressenti quelque chose, alors c'est que c'est vrai. Et on va mettre énormément l'accent sur le ressenti, sur les émotions. Ça devient un peu le truc ultime. Ah oui, mais moi, je l'ai ressenti comme ça. Je t'ai dit telle chose, c'était pas méchant. Oui, mais moi, je l'ai ressenti. Donc si je l'ai ressenti comme tel, c'est que ça doit être vrai. Et vous avez deux excès qu'on peut trouver aujourd'hui. L'excès de rationalisme, l'excès de sentimentalisme. Or, le cœur va être, dans la philosophie grecque, un lieu de synthèse des deux notions, qui fait que vous, être humain, vous faites en permanence le lien entre ce que votre cerveau vous dit et ce que vos émotions vous disent. Alors, le cœur, pour le pape, ne s'arrête pas là. Le pape est, au fond, très marqué par Blaise Pascal. Il a écrit, c'était, je crois, les 400 ans de la mort de Pascal. Il a écrit à cette occasion-là un très beau texte sur ce philosophe français. Et Pascal accorde beaucoup d'importance au cœur. Mais le cœur, chez Pascal, c'est pas simplement ce lieu de synthèse des émotions et de l'intelligence. C'est aussi un organe, si vous voulez, qui ne trouve vraiment son usage que lorsqu'il est connecté. Que lorsqu'il est connecté à Dieu, et que lorsqu'il est connecté aux autres. Si je vous prends un superbe tuyau de chauffage, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous pouvez le regarder, c'est magnifique, un beau tuyau. Mais tant qu'il n'est pas connecté à quelque chose, au fond, il n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il devrait être. Il ne prend son sens qu'à partir du moment où il est connecté. Et d'une certaine manière, notre intelligence et nos sentiments, ok, c'est bien, ça fait notre centre, mais ce centre ne devient véritablement lui-même que s'il est connecté. Que s'il est connecté aux autres et que s'il est connecté à Dieu. Vous avez cette image célèbre qui sera reprise par Blondel des siècles après Pascal, mais alors simplement inspirant Pascal, de l'homme comme d'une réalité ouverte sur le monde, avec l'image du Panthéon. Le Panthéon qui est creux, le dôme du Panthéon est percé. Et c'est grâce à ça que le Panthéon est un monument magnifique, merveilleux, parce que la lumière traverse le bâtiment et vient se répandre dans le bâtiment. Et l'être humain, au fond, devient véritablement lui-même parce qu'il est ouvert sur quelque chose qui le dépasse. Il est ouvert sur les autres et il est ouvert sur Dieu. Fermez cette ouverture et vous avez un truc très obscur et vous avez quelque chose qui, d'un seul coup, perd complètement sa vie. Le pape va s'appuyer sur un roman de Dostoïevski avec l'exemple d'un personnage qui, comme ça, est incapable de cette ouverture aux autres, incapable de cette ouverture à Dieu, et au fond, qui n'a pas de cœur. Parce que avoir un cœur implique l'ouverture. Donc, vous avez aussi ici une vision qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on ne se définit pas comme des individus. L'individu, en philosophie, c'est la dernière chose que vous ne pouvez pas couper. Si je coupe Cécile en deux, je perds Cécile. Parce que j'aurais pu que ben, ça marche pas. Je ne peux pas mettre les pieds et la tête. Bon. Donc, mais un individu, pour la foi chrétienne, ce n'est pas suffisant. Cécile est parce qu'elle est en relation. Coupez-la de ses relations, c'est à peu près comme si vous lui coupiez ou les pieds ou la tête, vous la tuez. Oui, on n'est pas simplement une cellule indivisible, on est une personne, on est un être de relation. Et donc la notion de cœur va désigner cela. Notre être le plus profond, le lieu de notre synthèse, qui va être à la fois le lieu où on va faire synthèse de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on réfléchit, de tout ce qu'on a appris, et à la fois le lieu de nos sentiments, et le lieu de l'ouverture, qui va se nourrir du contact avec les autres et du contact avec Dieu. Ce qui est très compliqué, c'est que ce cœur nous échappe, c'est que ce cœur est caché. Et le pape finit même son chapitre en se disant, mais au fond, la grande question que chacun d'entre nous doit se poser, c'est « Ai-je un cœur ?» C'est redoutable comme question. « Ai-je un cœur ?» Parce qu'il est possible de grandir et de se développer en se fermant, et en se fermant parfois à notre intelligence, parfois en se fermant à nos émotions, parfois en se fermant aux autres, parfois en se fermant à Dieu, on peut s'atrophier. C'est tout à fait possible. Donc, le cœur, pour chacun d'entre nous, si j'essaye d'identifier ce centre, ça va être un peu déstabilisant. Parce que je ne le trouve pas, j'arrive pas à mettre la main dessus. Et le pape insiste beaucoup sur cette notion de cœur, parce qu'il a le sentiment, lui, que cette notion peut nous aider. Il dit, dans un monde liquide, le monde liquide, c'est l'inverse d'un monde solide où les choses ne bougeraient pas. Le monde liquide, c'est un monde où les choses sont tangues en permanence. Et un monde où vous êtes sollicité en permanence. Où votre téléphone sonne, vibre toutes les 3 minutes. On sollicite vos affections. On vous sollicite pour la consommation. Vous êtes hyper sollicité. Et vous n'avez pas le temps ni la possibilité de revenir à vous-même. Donc le pape a le sentiment qu'il y a aujourd'hui le risque pour l'être humain d'une sorte de dispersion. Je me perds parce que je suis sollicité tout le temps et jamais je ne peux revenir à mon centre personnel. Donc parler de la notion de cœur, pour lui, c'est important. C'est s'opposer d'une certaine manière à cette notion, à la société de consommation ou à la société d'hypercommunication. C'est-à-dire, il est important d'aller chercher chacun notre centre, de partir à sa recherche, parce que vous aurez un peu de mal à le trouver. C'est pas si facile. Qu'est-ce qui fait votre unité? Quand vous avez un choix important à poser, où est-ce que vous allez aller le chercher? Je laisse le Père Charles-Marie continuer avec le chapitre 2.
C'est réglé comme du papier à musique, hein. À la minute près, on est dans notre timing. Le chapitre 2 parle non plus du cœur en général, mais d'un cœur en particulier, celui de Jésus. Et le pape fait remarquer que le Christ n'a pas voulu beaucoup nous expliquer son amour. Ce qu'il a fait, c'est qu'il nous l'a montré. Il nous l'a manifesté, comme on dit. Et c'est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand discours sur le cœur, même s'il nous dit « voici ce cœur qui a tant aimé les hommes », mais en revanche, il s'est laissé reconnaître, il s'est laissé toucher, il s'est laissé remarquer par plusieurs choses, même par son propre nom. Vous savez qu'un des titres ou un des noms du Seigneur, Jésus, c'est Emmanuel. Ça veut dire « Dieu avec nous ». Et c'est le principe même de l'incarnation. C'est d'ailleurs au moment même de l'incarnation qu'on entend que Jésus va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que Dieu, quand il vient avec nous, justement, il prend un cœur. Il prend un cœur et il essaye d'avancer. Il vit sa vie et il va avoir ce cœur humain qui va nous laisser voir, en fait, qui va nous laisser toucher et contempler. Il y a quelque chose de l'incarnation, de la grandeur du mystère de l'incarnation qui se déploie dans la contemplation du cœur de Jésus que l'on contemple dans l'Évangile, quand on voit Jésus à l'œuvre dans l'Évangile. Voyez ? Et donc le pape, dans ce chapitre 2, va faire une belle méditation sur la manière dont cet amour s'est incarné, à travers des gestes, à travers des regards, à travers des paroles. Voyez ? Et plutôt que d'aller vous faire une liste à la Prévert de tous ces gestes, ces regards et ces paroles que Jésus a posées dans l'Évangile, comme j'ai l'impression que vous connaissez quand même un petit peu l'Évangile, eh bien, on voudrait vous faire exprimer vous-même ce soir l'une ou l'autre des paroles où vous avez l'impression que le Seigneur se révèle particulièrement. Il y en a des quantités. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il y a tellement de choses, tellement de scènes de l'Évangile, de la Samaritaine en passant par Zachée, en passant par les grands discours de Jésus dans l'Évangile de Jean. Chacun a, à mon avis, un jour été touché, s'il est là, présent ce soir, par une attitude, un geste ou une parole. Et je vous propose alors, petit exercice, qu'on se retourne par groupe de 4-5. Alors, on n'a pas énormément de place, tant mieux, dans cette chapelle. Mais on va se retourner par groupe de 4-5 et que vous puissiez chacun pendant 3 minutes, donc vous voyez, ça veut dire 12 minutes dans le groupe, quoi, dire, réfléchir d'abord, on va prendre un petit peu de temps de silence, et ensuite dire, moi, si je devais en choisir un, si je devais choisir une attitude, un geste, une parole, eh bien, qui me montre l'amour de Jésus, l'amour humain de Jésus, enfin son cœur qui se révèle, eh bien, moi, je dirais que c'est ça. Voilà. Et j'ai pas trop l'impression de vous arnaquer ou de vous prendre au piège en vous posant cette question, parce qu'en fait, il y a une quantité phénoménale de réponses possibles. Et ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut être de la mangeoire, de la crèche, jusqu'au bras ouvert sur la croix. Ça peut être de Jésus dans une barque, de Jésus dans une rencontre, d'un regard posé sur un aveugle, d'un geste, il y en a plein. Donc, je vous donne quelques exemples au cas où il y en ait qui se sentent démunis. Mais j'imagine qu'en vous laissant une minute de silence, ce que je vais faire maintenant, vous trouverez quelque chose. Et il ne s'agit pas forcément d'être original, mais je suis sûr qu'à quelques-uns, enfin, dans nos groupes, on arrivera à faire émerger peut-être plus que ce qu'on peut imaginer, et peut-être plus que ce que je pourrais dire, moi, si je devais vous faire l'exposé, qui serait peut-être un peu creux, de toutes ces attitudes de Jésus. À mon avis, elles sont plus justes si elles viennent de votre propre cœur, si elles vous ont touché vous-même. Donc je vous laisse vous partager ce qui, dans l'Évangile, vous a touché du cœur de Jésus. Je mets une minute au chrono, et dans une minute, je chanterai « Aimer, c'est tout donner », et vous pourrez commencer.